BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, en ce week-end du 1er mai, eh bien, on a clairement des envies d'extérieur, pourquoi pas de piscine. Vous connaissez sans doute les piscines Water Air, leader européen, donc des piscines en kit. Water Air est une marque française qui en plus célèbre ses 50 ans cette année. Pour en parler et pour parler du marché très dynamique de la piscine privée, je reçois Vianney Tuffat, le directeur général de Water Air. Autre invité de la France à tout pour réussir ce week-end, c'est Fabrice Furlan. Sa société Plume s'apprête à commercialiser des trottinettes électriques très design, à la sécurité renforcée, mais aussi et surtout made in France, avec en plus le label Origine France garantie. Enfin, nous reviendrons sur la levée de fonds de 35 millions d'euros réalisée par Sélancis. Sélancis est en quelque sorte une brocante 2.0 pour le mobilier, pour la décoration d'occasion, mais avec des critères d'exigence très élevés dans la sélection des objets qui sont mis en ligne. Et tout d'abord, on revient sur l'actualité de ce que l'on a longtemps considéré comme l'une des plus belles pépites de la French Tech, c'est Sigfox. Sigfox, créé en 2009 dans la région de Toulouse, est devenu au fil des années un des leaders mondiaux des réseaux à bas débit et à faible consommation. Ces réseaux qui permettent, vous le savez, de faire fonctionner les milliards d'objets connectés déjà présents sur la planète. Mais depuis quelques mois, eh bien, Sigfox est dans la tourmente avec un placement en redressement judiciaire il y a tout juste 3 mois. Et puis la semaine dernière, eh bien, le tribunal de commerce de Toulouse a finalement confié la reprise de l'entreprise à Unabiz, une société basée à Singapour, mais créée par 2 Français qui se sont d'ailleurs engagés à revenir en France. L'un d'eux, Philippe Thiou, est venu raconter à François Sorel les coulisses de cette reprise en pleine campagne présidentielle avec tous les enjeux de souveraineté, évidemment, autour de ce dossier. On l'écoute.
Sigfox, c'est bien plus grand que nous. Et on se disait qu'il y aurait bien un géant qui va se positionner, mais au cas où, vous savez, au cas où, il faut se positionner. On s'est positionné. Et là, quand on a vu la liste des repreneurs, il y en avait 9, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. On a fait savoir qu'on était réellement intéressé. Et là, on a eu une vague de soutien. Vague de soutien des clients, des opérateurs, de Sigfox même en interne. Et ils ont dit, mais ça, c'est exactement ce qu'il faut pour... D'accord. C'est ce qui manquait à Sigfox. Et au final, on a eu beaucoup de soutien. Et ça nous a donné une énergie de... extraordinaire.
Mais alors le petit point noir qu'on peut peut-être relever, c'est que Sigfox ne sera plus français. Parce alors, que aujourd'hui,
ça c'est ce que croyait.
Vous êtes une boîte qui est basée à Singapour.
Basée à Singapour. Enfin, ouais. Il y a eu un blocage. On le sait, compliqué.
C'était un peu la condition qu'on vous obligeait, en quelque sorte.
C'est quand même une techno qui est utilisée par de très grandes sociétés en France,
bien sûr.
Dans la sécurité des biens.
Il est peut-être très important de conserver cette souveraineté
exactement,
de Fox
exactement.
Dans notre pays.
Et c'était le sujet. C'était le sujet que, et du coup, on a pas mal échangé avec Bercy, dont il a fallu qu'on attire l'attention via une lettre ouverte au président. Et le lendemain de cette lettre, on a été contacté par Bercy pour justement expliquer notre situation. Situation qu'ils ont tout à fait reçue, entendue, brainstorming sur les solutions. C'est incroyable, une semaine.
Et alors ?
En une semaine.
Le résultat, c'est quoi ?
On a travaillé avec le comité interministériel du redressement industriel de la France, donc qui est chargé de ce type de dossier. Et eh bien, il a fallu une condition, qui était réinstallez-vous en France.
Ça veut dire que vous allez revenir en France ?
Ça veut dire qu'on va revenir en France.
Unabiz va revenir en France. Et donc, en fait, le Sigfox restera sous pavillon français.
C'est une des conditions. C'est même une condition forte.
D'accord.
Et même pour que ça aille dans le bon sens, Unabiz, tous nos actionnaires. Il y a beaucoup de Français. On a 38% d'actionnaires français. Le reste n'est pas du tout français. Eh bien, on a passé pour avoir cette autorisation. On a eu déjà un accord préalable du conseil d'administration d'Unabiz d'explorer cette piste-là et d'avancer dans ce sens-là.
Voilà donc Sigfox qui devrait rester sous pavillon français, mais signalons tout de même qu'une 60aine d'emplois va être supprimée, soit environ le tiers des effectifs. Tout autre chose à présent dans l'actualité également, le bel été qui se profile pour le tourisme mondial de manière générale et tout particulièrement, c'est une bonne nouvelle pour le tourisme français, de belles perspectives que nous détaille Hélène Cornet.
Les réservations retrouvent leur niveau de pré-pandémie et même mieux encore, Logis, premier groupe européen d'hôteliers-restaurateurs, annonce une hausse de 37% des réservations cet été par rapport à 2019 et un chiffre d'affaires qui devrait bondir de 67%. Pour les campings, les réservations sont en progression de 24%, 30% de recettes supplémentaires attendues. Même le secteur aérien reprend des couleurs. On est revenu à la normale pour le court et le moyen courrier. C'est pratiquement le cas pour le long courrier. Le début de saison est prometteur, confirme Vangelis Panayotis, le directeur de MKG Consulting, avec le retour des touristes aux étrangers.
On retrouve nos clientèles voisins, internationaux, et y compris américaines. D'ailleurs, pour ceux qui se baladent dans les rues de la capitale, on entend parler un petit peu toutes les langues du monde en ce moment, donc c'est un bon signe. Et puis également sur la Côte d'Azur, voilà, le pack a été une bonne période.
Une situation qui profite notamment à l'hôtellerie de luxe qui enregistre une fréquentation en hausse de 3,6 points par rapport à 2019. La France est très bien positionnée, assure le ministre du Tourisme, et reste numéro 1 des destinations en Europe pour les Américains, les Belges et les Espagnols.
Et puis à présent, ce week-end du 1er mai, eh bien une entreprise qui elle aussi sent le retour des beaux jours, c'est Water Air, une marque de piscine née en France il y a d'ailleurs tout juste 50 ans. Bonjour Vianney Tufal.
Bonjour Jérémy.
Vous en êtes le directeur général donc de Water Air, une marque comme son nom ne l'indique pas, qui est bien française, née donc en 72 en Alsace. C'était donc dans le Haut-Rhin et sous l'impulsion d'André Chollet. Racontez-nous un peu les débuts de l'entreprise il y a tout juste 50 ans.
Alors des débuts comme toutes les petites entreprises qui ont commencé vraiment dans l'environnement du Haut-Rhin. Et très rapidement, André Chollet a voulu démocratiser la piscine pour le plus grand nombre des propriétaires de jardins. Et en quelques années plus tard, en 1976, met au point une technique avec des panneaux ondés, des panneaux en acier ondé, boulonnés, qui sont à la base de notre technologie du kit.
Parce qu'on rappelle voilà, que vous livrez des piscines en kit et ensuite à chacun de faire son propre assemblage, hein, c'est bien cela.
Exactement, on souhaite que le maximum de personnes puissent accéder au plaisir de la piscine, donc il faut que la piscine soit accessible financièrement. Et pour être accessible financièrement avec un produit de qualité, on a choisi le kit et les économies de main-d'œuvre.
Alors, on reparlera de ce modèle et de tout ce que ça implique aussi en termes de hotline, parce qu'évidemment, quand on monte soi-même, parfois, il y a des besoins de conseils. Un mot un peu sur le modèle économique. Donc, l'entreprise a été reprise par Jacques Braun en 1982. Il y a eu un bref passage à la Bourse de Paris. Pourquoi en être sorti? Pour retrouver, entre guillemets, un capitalisme plus indépendant et croître plus facilement?
C'est ça, un souci d'investir sur le long terme. Très rapidement, derrière, on a eu notre première politique RSE d'ailleurs, donc le choix d'investir sur des modèles éco-conçus. Et c'était cette indépendance, cet investissement dans le long terme qui était vraiment la clé de cette sortie de bourse, plutôt que des communiqués trimestriels.
Et ça fait 40 ans que ça dure, donc ouais. Les chiffres clés donc à l'instant T, vous avez je crois donc 90 modèles, si on prend toutes les options, 200 000 variantes possibles pour la plus grande satisfaction j'imagine de vos 125 000 clients, c'est votre chiffre de clientèle.
Exactement, on souhaite avoir la piscine pour chacun, une piscine sur mesure parce que chaque famille est différente, chaque terrain est différent et donc on veut pouvoir s'adapter à nos clients dans toutes les situations.
Le chiffre d'affaires de la société?
96 millions en 2021.
Et c'est en hausse, je crois que vous étiez... Alors, évidemment, l'année 2020 est très particulière. Et on était à 74 millions de chiffre d'affaires. Mais ce qui est le plus important, là, j'ai sous les yeux le nombre de piscines vendues. Et 2019, 3620, on passe à 6249 en 2021. Donc, forte progression de ce marché.
Tout à fait. Un marché qui a été extrêmement favorisé par la crise sanitaire que l'on a traversée, avec une France confinée bien sûr, beaucoup de télétravail, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées chez elles, et donc un fort développement de l'amélioration de l'habitat. Et pour ceux qui avaient la joie d'avoir un jardin avec un très beau printemps, un très bel été 2020, finalement un désir de piscine qui est devenu réalité.
On reste sur les chiffres clés. Donc de l'export aussi, c'est environ 20% de vos ventes qui sont exportées.
Une piscine sur 5 qui quitte notre usine à ses poids le bas part vers l'export.
Parce qu'on ne l'a pas dit, donc vous êtes si je l'ai dit, vous êtes dans le Haut-Rhin, donc à Sépoix-le-Bas, c'est là qu'il y a le siège de production. Combien de salariés, que ce soit au siège ou dans le reste de la France?
Donc nous sommes 360 salariés, 200 répartis sur toute la France, au plus près de nos clients, en proximité. unités et les 160 restants qui sont principalement sur le siège pour la production et l'outline, métier très important pour les interactions et la satisfaction avec nos clients, et puis ensuite les services support de l'entreprise.
Donc ça fait 360 personnes, des perspectives d'embauche, où je crois aussi qu'il y a une forte saisonnalité de vos effectifs.
Tout à fait, saisonnalité, voilà, tout le monde veut se baigner l'été, donc très grosse activité en saison, et donc nous recrutons généralement autour de 40-50 intérimaires pour la période de mars à septembre qui nous ont rejoints donc en février, que nous avons formés et qui dès à présent sont aux côtés de nos clients.
On est au tout début du mois de mai, en ce week-end, donc 30 avril et 1er mai. Le marché, j'imagine, là on entre dans le dur, c'est vraiment pour vous la haute saison qui est en train de commencer ou qui a peut-être déjà un peu commencé?
Qui a un petit peu commencé, la saison commence vraiment entre février et mars, qui est l'un des moments pour se lancer dans le projet. Et puis à mesure qu'on se rapproche de l'été, ben effectivement il faut un petit peu se dépêcher pour se baigner cet été, et là toutes les entreprises sont organisées pour livrer au plus vite, pour que les clients qui aujourd'hui passent commande puissent être livrés encore avant l'été, puissent monter leur piscine en une semaine et profiter de leur piscine dès cet été. Donc là, oui, on est dans le gros de la saison.
Vos concurrents en France, on parle souvent ici, on le reçoit d'ailleurs aussi, le patron des Joyaux, il y a Mondial Piscine, Alliance Piscine. Alors, ce n'est pas les mêmes produits, mais c'est un marché qui est, on va dire, hyper dynamique pour vous, comme pour les autres acteurs du secteur.
Tout à fait, oui, c'est un marché extrêmement dynamique pour nous tous, avec des technologies qui ont tous leurs avantages et un certain nombre de particularités. Et pour nous, le point clé, c'est de pouvoir offrir une piscine qui soit accessible financièrement à nos clients et donc accessible techniquement, d'où le kit.
Accessible financièrement, c'est quoi le prix moyen de votre une piscine water air?
Voilà, un projet piscine en général c'est autour de 20-30 000 euros. Notre premier prix commence à 7 200 euros pour nos premières piscines.
Pour moins de 10 mètres carrés?
Pour moins de 10 mètres carrés en l'occurrence, et ensuite on remonte avec tous les prix, tous les 200-300 euros.
Et voilà. Ça a son importance. Je vais vous faire réagir à un sujet qu'on a diffusé cette semaine sur la fiscalité des piscines. Depuis quelques mois, avec notamment la suppression progressive de la taxe d'habitation, tout est bon pour faire entrer de l'argent dans les caisses du Trésor public, et le fisc a même recours aux outils de Google pour traquer les fraudeurs. Explication signée Marie-Cœur de Roy.
Cela fait déjà plusieurs années que Bercy a lancé la chasse aux piscines non déclarées. Car oui, au-delà de 10 mètres carrés, il faut faire en mairie une déclaration préalable de travaux. C'est forcément le cas si la piscine est enterrée, mais c'est aussi vrai lorsqu'elle est hors sol en fonction de son mode de construction et de sa taille. À la clé pour les contribuables, une hausse de la taxe foncière et une taxe d'aménagement. On parle à chaque fois de plusieurs centaines d'euros par an par propriétaire de piscine. Quand on sait que la France en compte désormais au moins 3 200 000, on comprend mieux l'intérêt du fisc à chasser les installations non déclarées. Reste que le dernier outil en date est encore loin de faire ses preuves. Le logiciel développé par Capgemini et Google affiche pour l'instant une marge d'erreur de 30%. Il voit des piscines où il n'y en a pas, en les confondant par exemple avec des bâches de chantier. Il passe aussi à côté de certaines, quand elles sont cachées par des arbres ou à l'ombre d'une maison.
Vianney Tufal, cette fiscalité, c'est un frein pour votre développement?
Non, parce que c'est, comme le disait dans le reportage, on parle de quelques centaines d'euros. Là, effectivement, on parle de propriétaires qui ne l'ont pas déclaré, donc il y a un rattrapage. Mais pour un client qui déclare sa piscine en temps et en heure à l'issue de son chantier, il y a une première taxe, ensuite il y a une franchise. Et c'est surtout la valorisation du bien immobilier qui, derrière, enchaîne une augmentation légère de la taxe.
J'aimerais que l'on termine cet entretien sur le fait que vous êtes devenu, que Water Air est devenu il y a quelques mois, à la fin 2021, une entreprise à mission. Qu'est-ce que ça change dans vos engagements à la fois sociaux, sociétaux et écologiques?
Ben, une société à mission, c'est vraiment décrire notre colonne vertébrale, qui on est, notre mission dans nos statuts. Et donc pour nous, ça nous a permis de clarifier, de porter haut et fort notre volonté de réaliser des piscines qui soient accessibles, sur mesure, durables, d'accompagner tous nos clients pour leur satisfaction et la durée de leur piscine, et puis de contribuer au bien-être de nos parties prenantes.
Et les,
ça peut être très large.
Et les produits écologiques, ça fait plus de 5 ans que vous y mettez. Il y a eu la couverture chauffante solaire dès 2016, un système de filtration qui consomme moins depuis 2020, et puis un mot aussi de cette piscine zéro impact qui a eu justement beaucoup d'impact pour votre entreprise.
Exactement. Alors dès le départ, l'acier est recyclé à 80%, donc on a une technologie très peu émissive. On a voulu aller plus loin avec notre couverture qui chauffe, un bloc de filtration de très faible consommation. Et quand on assemble tout ça, on arrive à avoir avec deux panneaux solaires une piscine dont l'énergie, la consommation électrique annuelle est compensée par deux panneaux photovoltaïques, ce qui fait une piscine zéro impact. Et nous avons réussi à obtenir le label de la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard.
Eh bien voilà, bravo, félicitations pour ce label, félicitations pour ces 50 premières années. On vous souhaite la même chose et sinon mieux pour les 50 prochaines. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la France à Tout pour réussir. Et avant de recevoir notre deuxième invité, Fabrice Furlan, et ses trottinettes électriques de la gamme Plume Made in France, parlons du développement du marché de l'occasion avec Celency. Celency, vous connaissez peut-être cette place de marché lancée il y a 8 ans, qui est en quelque sorte une brocante 2.0 pour les meubles et pour la décoration d'occasion. La start-up vient de réaliser une levée de fonds de 35 millions d'euros. Sa cofondatrice Charlotte Cadet était l'invitée de Tech & Co il y a quelques jours.
Celency, on se présente comme la marketplace de référence pour acheter et vendre du mobilier et de la décoration de seconde main. Donc effectivement, comme vous le disiez, c'est un site qui est fait pour les amateurs de pièces authentiques, de pièces de seconde main.
Mais alors qui vend sur Celency ?
Alors ce sont principalement aujourd'hui des professionnels, donc des brocanteurs, des antiquaires, en tout cas à 70%.
Pour certains qu'on peut retrouver, excusez-moi, je vous coupe, mais dans les villes qui font des brocantes traditionnelles.
Exactement,
aussi.
Ce sont vraiment ces vendeurs qui sont aujourd'hui, c'est un marché qui est très fragmenté, donc ce sont des vendeurs qu'on retrouve surtout dans des petits villages qui n'ont pas forcément accès à une grosse visibilité, à un gros trafic, et c'est ce qu'on leur propose sur le site.
Donc vous digitalisez en fait ce métier de brocanteur.
Exactement.
Auprès de ces gens-là.
C'est vraiment notre proposition de valeur absolument de départ, d'aider ces personne à se digitaliser, accéder à une belle vitrine.
D'accord. Donc, vous avez combien de vendeurs aujourd'hui sur Celency ?
Aujourd'hui, on a plus de 6000 vendeurs, on va dire, 6000 vendeurs professionnels et puis des milliers de vendeurs particuliers, puisqu'on s'ouvre de plus en plus aux particuliers.
Ah, d'accord.
Okay. Pour revendre aussi leurs belles pièces de seconde main sur le site.
Donc là, vous êtes confronté avec le Bon Coin, mine de rien.
Oui, alors on est confronté au Bon Coin, effectivement, avec une proposition de valeur qui est bien différente, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on propose et là où on convainc et on séduit des vendeurs particuliers, surtout le service. Parce qu'on propose notamment des services de livraison pour aller chercher la pièce chez le vendeur et la livrer chez l'acheteur. Tout un service autour du paiement pour sécuriser la transaction, etc.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes ouvert en 2020 aux entreprises et notamment tous ces hôtels qui ouvrent et qui font le parti pris du design un peu vintage, etc. Là, pour vous, c'est un vrai marché, ça, aujourd'hui ? Les hôtels, les restos, j'imagine, tout ça.
C'est un énorme marché. En fait, aujourd'hui, c'est à peu près 20% du business chez Celency. On est en pleine croissance sur ce service qu'on a structuré il y a 2 ans maintenant. Mm-hmm. Et on est la vraie seule réponse plausible sur le marché pour apporter des pièces qui sont à la fois uniques, authentiques, là encore, du service, et de plus en plus répondre à cette problématique de se meubler en seconde main. Notre force, c'est de proposer des pièces qui durent dans le temps, qui traversent les époques. Et pour ça, on est bien différent, effectivement, de toutes ces enseignes qui proposent de l'industriel fabriqué en Chine avec une durabilité parfois un peu douteuse. Je pense que notre valeur, c'est de dire voilà, on va acheter des pièces qui ont une fois de plus du charme, une authenticité et qui en plus résistent et traversent les époques.
Voilà, donc même en seconde main, vive le Made in France. Et cela peut bien sûr s'appliquer aux trottinettes électriques. Bonjour Fabrice Furlan.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de ces trottinettes dont on va parler dans un instant. Mais voilà, un produit qui n'a pas bonne presse, on le considère comme dangereux dans nos villes, abandonné un peu partout, fabriqué à l'autre bout du monde et avec de gros questionnements sur le recyclage. Et bien sûr, une partie de ces griefs, vous essayez donc d'apporter des réponses avec allure. La trottinette Made in France que vous avez développée au sein de votre entreprise, Plume. C'était vraiment le but un peu de réhabiliter cet objet important dans la mobilité, mais qui a vraiment une mauvaise presse.
Oui, on a voulu réinventer cet engin, apporter une nouvelle génération d'engins, en partant des besoins des utilisateurs. Donc, vous parlez de sécurité, donc nous, ça s'est traduit par l'hypervisibilité, donc sur la trottinette.
On le voit sur quelques images, pour ceux qui nous suivent en télévision, donc l'hypervisibilité, ça passe par vraiment, on le voit sur des lumières, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Toute la face avant, en fait, est munie de bandeaux LED, qui permet d'accélérer cette hypervisibilité, et aussi sur la partie arrière. C'est aussi sur cette partie avant qu'il y a ces indicateurs de direction, donc les clignotants. Donc cette sécurité, en fait, fait partie de l'ADN de la Plume Allure. Et c'est aussi l'identité de notre engin. Donc on a voulu faire aussi un bel engin sur lequel on est fier d'être dessus. Donc ça participe à cette identité.
C'est une plateforme aussi un peu plus large, je crois, pour y mettre les pieds, hein, c'est ça ?
Oui, en partant de l'usage, on a voulu faire aussi un produit confortable. Hein, c'est ce qui était demandé par nos utilisateurs, puisqu'on l'a conçu en partant du besoin d'usage. Et donc un plateau large pour le confort, et puis aussi des spécifications techniques qui permettent d'apporter du confort de puissance pour passer des codes. pour avoir aussi un châssis qui supporte jusqu'à 120 kg et avoir toute cette puissance et cette autonomie qui permet, quel que soit le relief, d'emmener l'utilisateur.
Alors donc, au-delà de ses capacités de sécurité, de son design, si vous êtes là aussi, c'est parce que vous avez obtenu ce label Origine France Garantie. C'est important. Vous certifiez que 82% des composants que vous utilisez sont donc produits et surtout assemblés en France. C'est bien cela.
C'est bien cela. En fait, on ne le certifie pas. On a été certifié pour ça. C'est ce qui fait la différence par rapport au Made in France. L'Origine France Garantie, on est audité et par un organisme qui s'appelle l'AFNOR. Et donc, tous nos composants en fait ont été audités, le coût des composants ont été audités, nos fournisseurs de process ont été aussi audités pour être certifiés. Et cette certification, elle est engageante puisqu'en plus elle est valable un an, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, on doit reconfirmer qu'on est toujours dans cette Origine France Garantie.
Et c'est un argument de vente. Est-ce que vous sentez, vous êtes en phase de début de commercialisation, est-ce que vous sentez que c'est un argument, pas que marketing, mais un argument de plus en plus important pour les utilisateurs?
On vit quand même une période sur laquelle la souveraineté nationale est importante, liée à ce qu'on a vécu avec la Covid. Effectivement, le besoin d'être indépendant est nécessaire. Mais chez nous, ça n'a pas été un argument de vente, c'était surtout une philosophie. Aujourd'hui, la majorité du marché est en France et en Europe, et 99% des engins proviennent de Chine à 10 000 km d'ici. Donc c'est un non-sens de produire à 10 000 km avec l'empreinte carbone que ça produit pour un usage qui est lui-même décarboné. Donc nous, on a voulu ramener de la cohérence, une fabrication locale en circuit court, aussi décarboné que l'usage le représente.
Alors le local, donc ça passe, vous êtes vous-même installé dans les Hauts-de-France.
Oui.
C'est bien cela. Je vois qu'il y a beaucoup de... Alors, je vois structure mécanique WTX, ça vient de Roubaix dans le Nord. Injection des composants en résine plastique, ça vient du Nord également. Composants électroniques, une filiale des Fages à Verquin dans le Pas-de-Calais. Les casques et accessoires connectés, ça c'est Cosmo Connected à Paris. Et puis un des éléments essentiels, c'est la batterie. Et là, c'est la société Gouache qui est en Gironde. C'est bien cela. J'ai fait un tour de France qui correspond à votre sourcing.
Oui, et ça représente 82% de notre engin. Ce qui est important, c'est que cet engin, on a voulu le penser durable, parce que le premier axe de décarbonation, c'est de faire un engin qui soit durable, qui puisse avoir une deuxième vie, une troisième vie. Et pour être durable, il faut qu'il soit réparable. Et donc, tout ce que vous avez cité, en fait, on a pensé, et c'est aussi notre philosophie, que cet engin soit réparable. Et la batterie en est un bon exemple, parce que l'ensemble des batteries qui sont sur le marché sont des composants qui sont soudés. L'entreprise Gouache, en fait, a conçu une batterie. C'est pour ça qu'on a voulu l'avoir sur notre plume allure, qui permet d'être démontée, de remplacer chaque cellule qui est défectueuse, qui fait que la batterie peut durer beaucoup plus longtemps dans le temps.
Alors, le prix de ces trottinettes, je crois qu'il existe deux versions.
On a deux déclinaisons, en fait. Donc, une première trottinette à 45 km d'autonomie à 1099 € et une deuxième version à 70 km d'autonomie à 1399. Et en ce moment, on est dans une opération de pré-lancement, puisqu'on fait un crowdfunding qui a démarré cette semaine, sur lequel on fait une remise sur ces engins. Donc, la première est à 879 et la seconde à 70 km d'autonomie est à 1119 €.
Donc, moins 20% pendant combien de temps?
Là, c'est pendant 3 semaines.
Pendant 3 semaines.
Avec une livraison qui va arriver pour novembre. Et c'est pour ça qu'on propose ces précommandes pour pouvoir livrer en fin d'année.
Et ces précommandes, elles fonctionnent bien. On est après quelques jours de lancement de cette campagne de financement participatif. Est-ce que vous êtes satisfait des premiers chiffres?
Ah oui, puisqu'on a presque atteint notre objectif sur à peine une semaine.
Qui est de combien?
En fait, on a voulu mettre 50 000 € de base de départ. En fait, ça sert surtout cette étape de lancement. Et on est en train de les attendre au bout de 4 jours à peine.
Eh bien, parfait. Vous le disiez, c'est un marché en forte croissance. Je crois que vous allez me confirmer ces chiffres. Un peu plus de 900 000 trottinettes électriques vendues en France en 2021, plus 42% sur une année.
Oui, c'est ça. C'est un marché qui vit des croissances depuis plusieurs années qui sont assez importantes. Vous parlez de 908 000 trottinettes vendues en 2021. Donc, c'est des ventes aux particuliers. Il y a 5 ans, c'était 9 fois moins. C'est-à-dire qu'il y a quasiment eu un facteur de 9 en 5 ans, ce qui est énorme.
Et c'est par vos réponses qu'on arrêtera un peu de voir tous ces les trottinettes, qu'on voit des amas de trottinettes inutilisées un peu partout en France, mais dans le monde aussi. C'est contre ça que vous voulez lutter, entre autres.
Oui, c'est un usage qui est vertueux. Aujourd'hui, dans de nombreux cas, ça remplace la voiture ou ça s'inscrit dans l'intermodalité, donc en complément d'autres moyens de transport. C'est un moyen de transport, de mobilité qui élargit l'offre des mobilités au même titre que le vélo, la marche, les transports en commun. C'est l'enjeu pour nos défis climatiques. Et donc, on doit aussi être vertueux sur ce qu'on fait. Donc, on veut ouvrir la voie sur une production locale au service d'un marché local.
Il nous reste 30 secondes. Juste un mot sur votre rôle, votre mission de président de la Fédération des professionnels de la micro-mobilité. C'est important, voilà, de rassembler tous les acteurs pour aller dans ce même sens.
Oui, tout à fait. En fait, c'est toute une filière. C'est tous des professionnels qui œuvrent la réglementation pour bien circuler sur les routes. Et tous des études, des labels qu'on met pour les magasins. On a énormément de sujets qui continuent à montrer que cette filière se professionnalise.
Eh bien, je précise aussi, voilà, que vous avez aussi, je crois, une gamme de trottinettes et de vélos électriques que vous proposez aux entreprises, hein, je crois, au sein de votre entreprise. Merci beaucoup, Fabrice Furlan, d'avoir été l'invité de la France à Tours pour réussir. Et en ce week-end du 1er mai, peut-être une suggestion de sortie si vous êtes dans la capitale, c'est la Foire de Paris. Elle a ouvert ses portes jeudi dernier et c'est son grand retour après l'annulation des éditions en 2020-2021 pour cause de Covid. Et bien, le week-end prochain, nous serons d'ailleurs sur place, Porte de Versailles, pour parler notamment d'un espace entièrement dédié au Made in France, mais aussi d'une société, vous connaissez peut-être, Fabrice, T-Bike, une solution qui permet à moindre frais d'électrifier votre vélo traditionnel. Rendez-vous donc Porte de Versailles le week-end prochain. Ce sera le 275e numéro de La France à tout pour réussir. Très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.